Bonjour à chacun. Je suis toujours émerveillé de voir comment Dieu conduit les choses et comment les chants étaient merveilleux ce matin dans ma réflexion pour le message cette semaine. En réfléchissant à notre vie chrétienne, à l'action de l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, profondément dedans de nous, et à nos réactions d'hommes et de femmes, et donc à l'état de notre foi personnelle, hein, tout à fait personnelle, il me semble qu'il y a deux points importants qui sont nécessaires et qui l'un et l'autre se contrebalancent sans cesse en nous donnant ainsi jour après jour une vie de disciple équilibrée. Il y a d'un côté la certitude, et de l'autre côté la remise en question. Ça paraît pas fonctionner ensemble, hein. Vous savez, quand on est sûr de quelque chose, on ne le remet pas en question. La certitude, la conviction de notre nature de pécheur, initialement séparée de Dieu, à la chute donc, et de son action envers nous par sa grâce, va créer en nous la foi, qui est la certitude fermement ancrée au plus profond de nous, de notre rachat en Jésus-Christ par sa mort sur la croix pour nos péchés. Et donc de notre accession au statut d'enfant de Dieu, co-héritier du royaume de Dieu. Ça, c'est la certitude. Et puis, il y a la remise en question. La remise en question, c'est-à-dire notre attention à nous, notre interrogation, notre recherche chaque jour pour demeurer dans le plan de Dieu, obéir à ses ordonnances, marcher en véritable disciple, ce qui n'est pas une mince affaire de tous les temps, mais des nôtres, pour ce qui nous concerne spécialement aussi. Et donc aujourd'hui, forcément dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde qu'on dit sans repère. Et ces deux choses, la certitude et la mise en question, vont ensemble, se mélangent. Elles sont intimement liées. Elles interagissent l'une avec l'autre. Souvenez-vous ces versets qu'on a lus souvent et qu'on relit souvent. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? De Corinthiens 13, 5. Ainsi, s'il y a la certitude du salut, et c'est important pour nous d'avoir la certitude de ce salut, c'est primordial, elle est aiguisée, alimentée à chaque instant par les remises en question, non pas sur son fondement à ce salut, non. Le salut est acquis de la part de Dieu et non selon nos actes, mais alimentée d'une part par notre intelligence, notre réflexion d'autre part, et puis nos doutes, nos questionnements quant à notre vie, nos agissements de tous les jours, qui justement découlent de cette grâce et de cette certitude. Paul disait à Timothée, donnant conseil pour Timothée dans l'église où il travaillait, un Thessaloniciens 5, 21, examinez toutes choses. Examiner, ça veut dire il faut faire l'exercice d'eux. Ce n'est pas gober tout comme ça. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il dira aux Galates que chacun examine ses propres œuvres. C'est-à-dire, examine ce que tu fais, réfléchis à ce que tu fais, remets-toi en question sur ce que tu fais. Éphésiens 5, 10, examinez ce qui est agréable à Dieu, agréable au Seigneur. Et l'équilibre n'est pas si évident que ça. Raison pour laquelle nous avons besoin de l'action de l'Esprit de Dieu en nous, au-dedans de nous, et de le laisser vivre, de le laisser libre au-dedans de nous, selon la formule connue de Jean, exprimée par Jean 3, verset 30, et reprise par beaucoup de réformateurs et de leaders depuis, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire que sa part, la part de ce qui est de Dieu et de ce qui est de moi, la part de Dieu grandisse, et toujours diminue plus la part qui est de moi. Alors j'aimerais, pour aller dans le sens de ce que Ouli nous disait ce matin, l'importance de, de recevoir et d'écouter la parole, j'aimerais ce matin prendre avec vous un texte que vous connaissez bien et que je replace très rapidement dans son contexte. Jésus vient juste d'accomplir un grand miracle, la multiplication des pains. C'était pas rien, ce miracle, la multiplication des pains. Il y avait là une grande foule. Après le contact avec cette foule, Jésus, juste attends une seconde Clément, merci. Merci. Jésus éprouve le besoin d'être seul, pas pour se faire une petite sieste, hein, se la couler douce, un petit coin là. Non. Il éprouve le besoin de souffler un peu et puis pour se ressourcer, pour prier son Dieu. C'est ce que nous dit le texte. Et puis, il dit à ses disciples, partez déjà, allez. Je vous rejoins plus tard. C'est tout à fait ordinaire, hein. Ça va prendre une tournure un peu différente. Il demande à ses disciples de traverser la mer, donc ils allaient de l'autre côté. Hein. Allez déjà, je vous rejoins. Voilà, point. On ne se pose pas de questions. Il leur dit simplement qu'il va les retrouver plus tard. Merci Clément. On lit notre texte, Matthieu 14, verset 23. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, on va dire plutôt tôt le matin, à la quatrième veille de la nuit, il va vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens !» dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » On va laisser le texte là. Au fil de ce texte, je vous invite ce matin à nous remettre en question, chacun, en nous mettant à la place de ses disciples et à réfléchir à nos actes, nos attitudes, nos engagements et leurs conséquences dans tous les jours de notre vie. D'abord un constat. Le bateau était, on nous dit, à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues car le vent était contraire. Il était au large, ballotté par la tempête. Comme les disciples, ce jour-là, nous vivons isolés, nous-mêmes, chacun dans notre propre bateau, au milieu d'éléments hostiles, dans un monde hostile, dans un milieu hostile. Un monde hostile à Dieu, bien souvent. Nous sommes seuls, mais comme dans ce bateau, les gens collés les uns aux autres, les uns à côté des autres, ballottés par les idées, les modes, les courants, les mouvements, les vents. Le monde nous est souvent contraire à notre idéal, souvent contraire à l'Évangile. Négatif au lieu d'apporter l'espoir, destructeur au lieu de voir l'avenir, stressé au lieu d'être serein. Et nous, chrétiens, mais nous n'y échappons pas, ou très peu. Le vent de notre histoire personnelle, celui de l'histoire de l'Église, au fil des temps, nous le rappelle. La description de ce passage dans ce texte est tout à fait une description de notre monde, du monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes justement appelés à être sel et lumière. J'ai noir. De la nuit, sel et lumière. Ce texte est vraiment d'une actualité, mais frappante, et nous parle directement. Lorsque j'avais fini de préparer ce travail mercredi soir, en arrivant au bureau le jeudi matin, parmi un tas de courriers que j'ai le matin, il y avait ce petit fascicule Bible Info qui arrive à mon adresse de boulot. Je ne sais pas si vous connaissez Bible Info. C'est un truc qui sort tous les trimestres. Ouais. C'était le dernier de l'année. Et dans l'introduction, j'ouvre, première chose que je fais, j'ouvre et je lis. Dans l'introduction, je vous passe le début, mais je vous donnerai le titre après. Et il met comme ça, c'est pour la fin de l'année. Donc l'année qui se termine emporte avec elle son chargement de doutes, d'errements, de crimes, et laisse bien peu augurer d'une quelconque lumière dans les ténèbres de notre planète. Je me dis, c'est pas vrai, ça tombe pile dans mon texte. Alors que l'Occident, retranché dans l'égoïsme et la peur de ceux qui ont trop reçu ou trop pris, tente de se persuader que la crise se termine, dans le reste du monde, des déconvenues, des horreurs s'accumulent. Les printemps arabes ont tourné au chaos, les atrocités se multiplient, emportant souvent nos frères et sœurs, croyants dans leurs tourmentes. Les préoccupations écologiques de réchauffement climatique qui mobilisaient toute la planète il y a quelques mois s'étiolent fatalement devant ce regain de brutalité. Et je trouvais que ça suivait bien le texte, ce ballottement de tous les sens. Alors comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que nous vivons? Dans notre solitude, nous sommes troublés. Nous sommes troublés comme étaient les disciples. Et alors que notre Seigneur est tout proche, comme il l'était proche des disciples, bien souvent nous ne savons pas quel chemin prendre et qui suivre. Et force est de constater que finalement, nous sommes relativement enclins à voir les choses de façon peu claire, un peu comme si nous ne suivions que des fantômes. Mais des fantômes qui ne nous comblent en rien, des fantômes qui ne nous rassurent pas, des fantômes qui nous effraient, qui nous font peur. À ce point-là, nous ne distinguons plus ou ne connaissons même pas ou plus la lumière de Dieu. Nous avons en tout cas du mal à la voir. J'ai réfléchi, j'ai dit, il avait une lampe, Dieu, Jésus, sur marchant sur l'eau. Comment est-ce qu'ils l'ont vu arriver? Ils ont pu le voir que quand il était tout près. Est-ce qu'il avait, une lampe de poche, quelque chose pour se signaler? On dit qu'il ne faut jamais être la nuit sans lampe de poche ou sans, en vélo sans feu. Curieux, ils l'ont vu pourtant. Ils savaient chacun qu'il était prêt, tout prêt. Reprenons notre texte. Lorsque Jésus marche sur l'eau pour rejoindre la barque, les disciples ne reconnaissent plus leur maître et voient devant eux d'autres puissances qui tout de suite prennent le pas sur la puissance de Dieu. Ils ont peur et ils crient. Mais à qui ils crient? À qui ils crient? Puisque Jésus est là devant. Ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme! Et dans la crainte, ils poussaient des cris. Question à nous poser. Où sont les limites de ma foi? Qui dirige ma vie? C'était ses disciples. C'était ses disciples, là dans la barque, ensemble, en plus. Tout seul, on pourrait dire, on n'a pas osé, on a eu la trouille, mais ensemble. Au milieu de ce monde, de ce flot d'infos, de vitesse, d'individualité, de lutte, pour émerger alors que nous nous sentons seuls et ne savons pas reconnaître le chemin, il y a cet encouragement du verset 27. « Courage, c'est moi !» N'ayez pas peur. Aussitôt, nous a-t-il précisé, aussitôt le Christ nous remet en mémoire que si nous, chrétiens, nous le connaissons, au moment même, aussitôt, où notre vision de lui s'obscurcit, lui nous rappelle qu'il nous connaît par notre propre nom, personnellement, individuellement. Il nous connaît. Au milieu du recoin le plus sombre de notre vie, il y a toujours ce quelqu'un, Jésus, ce quelqu'un qui nous encourage, qui nous réconforte. Il est toujours disposé à intervenir dans nos vies. Il a toujours le temps, comme disait Oli ce matin. Ce quelqu'un, nous le connaissons par son nom. Nous le connaissons, nous les chrétiens. Pourquoi il dit, si on ne le connaissait pas, pourquoi il aurait dit « c'est moi » ? Vous savez quand quelqu'un dit « qui c'est ?» puis vous répondez « c'est moi ». Il faut déjà bien se connaître. Hein. C'est toujours rigolo, ça. Vous sonnez à une porte, qui c'est ? C'est moi. Voilà, c'est comme un bon moyen pour savoir si vous êtes connu. Hein. Nous pouvons, à tout moment, entrer en relation avec lui, nous adresser à lui, parler avec lui. Souvenez-vous, Jonas, au fond de son poisson, il dit, Jonas, les eaux m'ont recouvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Il y a des descriptions dans différentes traductions qui sont absolument fabuleuses. On parle des liens de la vase, des choses comme ça. Jonas était au fond du trou, on ne peut pas aller plus bas. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, dit Jonas. C'est autant physique que moral. Hein. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter de la fosse, éternel mon Dieu. C'est de là, au fond, que Jonas va appeler son Dieu, alors qu'il vient de se tirer, hein, dans l'autre sens. C'est de là, au fond, qu'il va l'appeler. C'est de là, au fond, que Dieu va lui répondre. Question à nous poser. Mettons-nous Dieu au défi de nous répondre, au défi de combler les vides les plus profonds de notre vie. Est-ce que nous osons le mettre au défi de cela ? C'est pas se montrer plus fort que lui, c'est au contraire se dire, mais là où j'en suis, est-ce que tu peux encore m'aider ? Dans mon souci précis à moi, dans ma situation précise, elle peut être énorme, elle peut être toute petite, ça peut être un tout petit grain de sable qui est dans notre chaussure et qui nous gêne terriblement pour marcher. Ça peut être une montagne à dépasser, peu importe. C'est notre problème. Mettre Dieu au défi. Tout comme il le fit avec Pierre, cet homme qu'on appelle de peu de foi. J'aimerais bien avoir la foi de Pierre. Cet homme de peu de foi. Vous savez, celui qui avait renié 3 fois le Christ la même nuit. 3 fois de suite, il est gonflé, hein ? Mais celui aussi sur lequel le Christ va bâtir son Église. Alors Pierre lui dit cette phrase fabuleuse, « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Là, c'est mettre au défi. « Ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Alors ici, moi, je me suis posé la question, « Mais Jean-Paul, qu'est-ce que je t'aurais fait si tu avais été Pierre ?» Ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il répond toujours quand on l'appelle. On l'a dit. À Pierre, il dira simplement, verset 29, « Viens. » Un mot, une réponse, viens. Mais vous imaginez la réponse à l'appel de Pierre, viens. Qu'est-ce qu'on fait lorsque Dieu nous dit viens ? Pourtant, ce n'était qu'un pas de foi. Est-ce que Jean-Paul aurait osé ? J'aime bien l'eau. Est-ce que j'aurais osé mettre le pied en dehors de la barque ? Et est-ce que vous, individuellement, vous auriez osé mettre le pied en dehors de la barque ? Je n'ai pas la réponse pour vous, je l'ai pour moi et encore. Qui peut dire ici qu'il aurait osé ? Pourtant, ce n'est qu'un pas de foi. Un pas de foi, simplement. Alors, est-ce que vous faites une fois l'expérience chez vous, vous posez une planche de 10 cm par terre, ça fait ça, vous la posez, une planche de 3-4 mètres, vous la posez et vous marchez dessus. Il n'y a pas de problème. Montez cette planche à 1,50 m de haut. Essayez. La planche a la même largeur. Mais vous n'avez plus du tout la foi de ne pas tomber. En tout cas, vous tomberez de plus haut. Imaginez cette planche à 50 mètres, un petit pont, une passerelle qu'il faut traverser dans votre vie. Il faut la passer. Il faut avoir la foi en quelqu'un de costaud pour la traverser. Parce que nous, on n'a pas la force tout seul. Dieu attend que nous faisions ce pas de foi. Suite à notre appel, à sa réponse. Et la question devient, pour chaque temps de ma vie, quelle est ma réponse à l'invitation de Christ de le suivre ? Pierre, vous avez vu ? Pierre descendit du bateau et marcha sur l'eau et vint vers Jésus. La personne crie quoi que ce soit. Hein. Mais Pierre descend, il marche sur l'eau. Il a fait le pas, il a marché sur l'eau. Jésus, Dieu venu sur terre, sur mer, ici. Dieu venu sur terre. Est-ce qu'on n'attend pas souvent des réponses qui nous semblent tellement extraordinaires qu'on pense qu'on ne pourra jamais les atteindre? Ou est-ce qu'on ne voit pas les réponses qui sont devant nous? On a l'exemple dans la Bible, mais dans l'Église aussi, de personnes qui ont fait ce pas de foi. Et au lieu d'aller au-delà de leurs réponses, on a l'exemple de prières qui ont été exaucées au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et on ne parle pas ici, quand Pierre descend, d'un miracle. C'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas de réflexion quand Pierre descend. Il n'y a rien, on ne sait rien. C'est quelque chose de naturel. Le Christ a dit « Viens », Pierre est venu. Le Christ nous dit « Viens », est-ce que nous venons? C'est là la réponse, la question. Un Dieu devenu homme qui, dans sa relation avec les hommes, accepte, comprend nos doutes, notre faiblesse d'homme, nos difficultés de vivre dans ce monde. Mais Pierre, voyant que le vent était fort, eut peur. Il commençait à couler. Est-ce que vous sentez ce changement? Tout d'un coup, Pierre ne s'est pas posé de questions. On n'a pas dit « il attend, il y va pas, j'y vais, j'attends qu'un petit peu ». Je compte jusqu'à 3. Descendu de la barque, il a marché. Tout d'un coup, il s'est dit, oula, mais je suis où là? Il y a du vent, plouf, il commence à couler. Dieu est attentif à nos cris, à nos détresses, à nos doutes, à nos interrogations, à nos joies, à nos peines. À chacune d'elles, il répond. À chacun de nos appels, à chacune de nos attentes pour aller vers lui. Il nous prend littéralement la main. Il nous délivre. Pierre s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, deuxième fois, aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. C'est un Dieu qui nous fait confiance. Il nous remet sans reproche en face de nos responsabilités, avec amour, avec sollicitude. Il dira simplement à Pierre, homme de peu de foi, en disant, mais c'est quoi ta foi? C'est quoi ta foi? C'est pas une punition, homme de peu de foi. C'est vraiment interroger, où est-ce que tu l'as mis? Tu crois en moi? Tu as la foi en moi? Mais alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si le vent est plus fort que ta foi? Combien de fois dans ma vie, cette année, ce mois, combien de fois dans notre vie, cette année, ce mois, la semaine passée, hier, aujourd'hui, Dieu aurait l'occasion de me dire comme à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Pourquoi doutes-tu? Frères et sœurs, ou vous qui cherchez encore Christ, ayons cette certitude. Le désir de Dieu est de nous prendre en charge et de nous libérer de nos craintes, totalement. De ce vent qui nous courbe souvent, qui nous courbe le dos, mais pas pour nous condamner ou pour nous punir. Non, justement, pour nous inviter à la confiance, pour combattre les vagues de la vie. Mais ce n'est pas son désir de faire de nous des moutons de Panurge qui vont le suivre bêtement, sans aucune idée de pourquoi on le suit, ou de pour qui, ou comment. Non. Dieu nous veut actifs et non passifs. Il nous veut réfléchis et non pas insensés. Non pas immobiles, mais en route. Chaud et non pas froid. Vivant et non éteint. Apocalypse 3,15, « Je connais tes œuvres ». À chacun de nous, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous avez vu que Jésus n'a pas porté Pierre. Il ne l'a pas porté. Pourtant, il coulait. Il ne l'a pas porté. Il lui a tendu la main. Ça a suffi. Vous avez déjà essayé de sortir quelqu'un de l'eau en tendant la main, simplement comme ça? On n'arrive pas. Il a simplement tendu la main et le fait de tenir cette main, accrocher cette main de confiance, Pierre est remonté à la surface de l'eau. Je ne sais pas combien il était enfoncé, mais peu importe. Il est remonté, mais Jésus ne l'a pas porté. Il a simplement donné la main. Pierre n'a pas coulé. Et lui aussi a marché sur l'eau, a continué à marcher sur l'eau en tenant la main du Christ. Et c'est comme ça qu'ils ont regagné le bateau. Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Point. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment fils de Dieu ». Ceux qui étaient dans le bateau. Tout d'un coup, on dit « ceux qui étaient dans le bateau ». Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait que les disciples dans le bateau, mais probablement pas. Il devait y avoir du monde, ça devait être un genre de navette, ce bateau. Je ne sais pas, qui traversait de l'autre côté. Tout d'un coup, on prend conscience qu'il y a d'autres personnes que les disciples seuls. Il y a donc des témoins, des gens comme vous et moi. Après tout, les disciples sont aussi comme vous et moi. Quel impact sur eux? Non seulement de voir Jésus et Pierre marcher sur l'eau, miraculeusement, quand même on va dire anormalement. C'est pas normal de marcher sur l'eau, vous êtes d'accord? C'est un miracle, on ne parle pas de miracle ici. Quelque chose qui s'est passé avec le Christ simplement. Et quel effet? Quel est l'effet de tout cela sur eux? Sans plus d'explication, ce sont les passagers qui le connaissent ou qui le reconnaissent, qui l'adorent, en témoignant qu'il est le Fils de Dieu. Alors posons-nous la question, qui était-il dans ce bateau? Eh bien, c'était des hommes et des femmes de leur temps qui se sont trouvés tous ici, là, ensemble, en un même endroit, en un même moment, confrontés à un acte de foi. Et qui sommes-nous aujourd'hui? Vous et moi, des hommes et des femmes de notre temps, ensemble, confrontés à un acte de foi. Et en qui mettons-nous notre confiance? Quelle est notre confession de foi? Et qu'est-ce que nous confessons? Qu'il est le Fils de Dieu? Qu'il est tout-puissant? Ensemble, aujourd'hui, Dieu nous interpelle à faire ce même constat dans notre vie. Tous, mais chacun avec et pour sa propre vie. Ensemble aujourd'hui, nous pouvons vivre cette même histoire, cette certitude d'une relation d'amour et de confiance avec Dieu. Tous, mais chacun avec ses propres questions. Ensemble aujourd'hui, nous pouvons écouter son offre de salut, la suivre en dedans et en dehors de notre barque, librement. Il n'a pas obligé tout le monde à marcher sur l'eau. C'est simplement Pierre qui l'a demandé. Alors il nous invite librement à cette offre de salut. Tous, mais chacun avec sa propre réponse. J'avais noté un verset pour terminer qui était celui-ci, de Corinthiens 13, verset 4, qui était pour préparer la scène, mais c'est John qui participera après, qui dirigea cette scène. Il a été crucifié à cause de ma faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons par lui, par la puissance de Dieu, pour agir envers nous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, et éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous? Et puis, entre-temps, j'ai reçu ce fascicule. Et là, l'intro s'appelle, le titre, c'est « Post tenebras lux ». Ça vous dit quelque chose? C'est la devise de Genève. Après les ténèbres, la lumière. C'est ce qui est écrit en énorme sur le mur des réformateurs. Et le texte termine comme ça. Sans tomber dans un excès de secte millénariste, ne soyons pas surpris par ces évolutions, car Jésus-Christ nous a prévenus. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même. Matthieu 24, 35. Faites bien attention à vous-même. De peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Restez donc en éveil, priant tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, versets 34 à 36. Que Dieu nous aide à marcher dans la barque, en dehors de la barque, mais à marcher les yeux fixés sur lui. Amen. John, je te laisse la place.
Je vous invite à écouter un texte avant que nous prenions ensemble la scène. Un texte annonciateur de la venue de Jésus, qui a été écrit des centaines d'années avant qu'il arrive. Et ce texte démarre comme ceci, il dit « Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Le serviteur, c'est-à-dire notre Seigneur, a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Et nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Il était brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. En fait, nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort ? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple ? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche qu'on méprise, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Ce matin, Oli nous a aidés à voir plus loin que le bout de notre nez pour voir le Seigneur. Il nous a aidés à faire cet effort pour aller à la rencontre du Seigneur. Et c'est quelque chose qui certainement n'est pas facile. Et ce texte qui nous parle du Seigneur et de toute son œuvre commence avec cette petite interrogation « Qui a cru à notre prédication ?» Et il n'est pas toujours facile de voir le Seigneur. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas voir le Seigneur. Et Ouli nous a cité l'exemple de Marthe, qui avec toutes les bonnes intentions du monde n'avait pas vu l'essentiel. Et ici, peut-être on voit aussi dans Jésus ce qu'il a enseigné, quelque chose qui est dépassé aujourd'hui. Notre monde a trouvé toutes les réponses à les grandes questions qu'on se pose. On n'a plus besoin de quelque chose comme Jésus qui nous aide à avoir la foi pour nous donner une explication de toutes ces questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Mais heureusement, la science nous a aidés à répondre à tout ça. Aujourd'hui, on a beaucoup d'argent qui nous aide à faire à peu près ce qu'on veut. On a exploré beaucoup de choses. On sait comment ça marche dans nos têtes. On n'a plus besoin de Jésus. Mais aujourd'hui, si nous prenons la Sainte Cène, laissons ce moment nous arrêter. Nous arrêter. Et que dans le fond de notre cœur, nous puissions répondre à cette question : qui a cru à notre prédication ? Est-ce que nous croyons encore aujourd'hui, pas simplement à quelque chose dont nous avons la tradition de faire, mais tout simplement que Jésus, oui, a effectivement porté nos fautes, mais plus loin encore, il a porté nos maladies et nos faiblesses. Et que c'était tout le long l'intention du Seigneur de faire ça, d'envoyer son Fils afin qu'il porte tout ce qui va mal dans nos vies et tout ce qui va mal dans notre monde. Chers amis, moi je vous invite les bras grands ouverts, comme le Seigneur, à prendre ce repas ce matin. Mais prenez-le en vous laissant interpeller, comme Ouli nous l'a rappelé ce matin et comme ce texte nous le rappelle. Est-ce que nous discernons là derrière toute cette œuvre belle et immense que le Seigneur a fait pour nous et surtout le fait qu'il l'a faite en notre faveur pour nous libérer, pour nous guérir? Je lisais encore ce matin dans l'évangile de Matthieu, où Matthieu reprend ce texte, il y a un lépreux qui vient voir Jésus et qui lui dit, se jette à ses pieds, puis lui dit « Si tu veux, tu peux me guérir. » Et Jésus, qui a été ému par cela, il dit « Oui, je le veux, sois guéri. » C'est tout ce que le Seigneur voudrait ce matin. C'est que nous puissions venir ici et voir dans ce geste cette œuvre belle et immense qu'il a faite pour nous guérir les uns et les autres. Est-ce que je pourrais inviter peut-être Florence et Philippe à s'approcher s'ils veulent bien et prier en notre nom et distribuer le pain et le vin? Et puis le Seigneur prit une coupe et la distribua parmi ses disciples et dit « Ceci est mon sang qui est versé pour vous, le sang d'une nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. »
Pendant qu'on ramasse les petits gobelets, j'aimerais commencer à partager vous les annonces et je vais un petit peu chambouler. D'abord, vous parlez de Didier. Didier devait être opéré cette semaine, vous le saviez, pour un résidu qui restait à faire. Et l'opération ne s'est pas bien passée du tout. Didier a eu un problème pendant l'opération avec un caillot qui a monté au cerveau et qui a provoqué une paralysie. Il a dû être changé d'hôpital pour traiter ça. Il est dans un autre hôpital à Bron actuellement, aux soins intensifs. Ce n'est pas des bonnes nouvelles du tout. Donc je vous propose qu'on ait maintenant un petit temps de prière pour Didier, que vraiment vous vous sentiez interpellé à porter Didier devant notre Dieu.
Seigneur, ce texte d'Ésaïe que nous avons lu ce matin dit que tu t'es chargé de nos douleurs et de nos maladies. Et Seigneur, ce texte dans l'Évangile où tu guéris ce lépreux nous dit aussi que c'est une façon, Seigneur, dont cette parole s'est accomplie. Et Seigneur, ce matin, nous voulons croire que tu t'es chargé aussi de la maladie de Didier. Et Seigneur, ce matin, dans ton œuvre de salut, nous t'implorons que tu le délivres et que tu le guérisses. Que tu l'aides, Seigneur, à surmonter encore cette attaque et cette épreuve. Seigneur, nous faisons appel à toi qui es le souverain médecin. Nous te prions que tu guides les médecins en ce moment, que tu les aides, mais aussi, Seigneur, que tu donnes à Didier dans son corps tout ce qu'il faut pour résister et combattre cette maladie et ce caillot, Seigneur. Et je te demande que vraiment tu l'aides à s'en sortir, Seigneur, et qu'il puisse continuer à être dans sa famille, Seigneur, et être aussi une bénédiction pour nous. Oui, Père, nous te prions aussi pour sa famille, comme plusieurs l'ont fait. Seigneur, tu vois combien cela peut être troublant et difficile. Et je te demande, Seigneur, que ce ne soit pas une occasion pour eux de se distancer encore de toi, mais plutôt, Seigneur, de venir à toi et de t'implorer, de trouver en toi leur salut. Seigneur éternel, accomplis ton œuvre. Nous te prions qu'elle soit une œuvre belle qui nous donne toutes les raisons de te louer, de te glorifier. Toi, Seigneur, en qui nous avons placé notre confiance. Au nom de Jésus. Amen.
Continuons à penser aux autres personnes qui sont malades. On a la joie d'avoir Annelise parmi nous. On est content de te retrouver, Annelise. Un peu plus en forme?
Non, quand même, je reste réveillée, madame.
J'ai vu, ouais. C'est super, hein. Voilà, en tout cas, on va continuer à prier pour Annelise aussi. Continuons à prier pour Jean-Michel, pour Anna, pour Mike. Vraiment, on a besoin de ce combat pour porter nos frères et sœurs et nos amis devant notre Dieu. Les annonces pour la semaine. Mercredi soir, c'est à 20h qu'on a mis cette réunion. Souvenez-vous, c'est à 20h, réunion pour notre fête de Noël, qui s'appelle fête de l'Avent, comme vous avez vu. Notre fête de Noël, donc. Et on fait un appel, là, aux personnes, aux dames, probablement, ou aux messieurs aussi, mais plutôt un métier féminin, ça, qui font de la couture. Il y aurait des choses à coudre, c'est simple comme tout. C'est simple comme tout. Alors, si vous avez une machine à coudre chez vous, c'est le moment, si elle est un petit peu dans la poussière, de la dépoussiérer. Et il y aurait un petit peu de travail, tout simple. Et vous demandez à Marie-Lou, c'est elle qui vous expliquera ça, qui vous donnera... C'est pas encore prêt. Si, magnifique. Donc ça viendra, voilà, ça va venir rapidement. Vous demandez à Marie-Lou, c'est des petits trucs de couture qu'il y a à faire, mais il y en a un certain nombre. Donc voilà, il faut que tout le monde s'y mette. On cherche donc des couturières et des machines à coudre. Ou alors, si vous voulez vous arranger ensemble, faire un après-midi couture, tout est envisageable. Voilà. Jeudi, grande nouvelle. Grande nouvelle jeudi, reprise de la chorale. Avec un nouveau chef, je ne vous dis pas ce que c'est, il faut venir à la chorale pour le voir. C'est une chef. J'aime pas le mot chef au féminin. Voilà, donc c'est Marie-Lou qui a accepté avec joie de prendre la chorale en charge. On va vraiment se réjouir. Alors, invitation à tous ceux qui étaient habitués de la chorale, 20h30, avec la forme habituelle. Et puis, moi, je vous invite à vous mettre en question aussi et à venir participer à la chorale. On va travailler tout de suite pour Noël, hein, dans le bain tout de suite. 20h30 ici. Rémi, où es-tu? Pas là. Groupe de jeunes? 20h. Voilà, merci. C'est pas moi qui sais pas, mais il devait me dire, mais il m'a pas dit. 20h. Groupe de jeunes, 20h. Dimanche, 9h30, petit déjeuner. 10h30, culte. Café ou petit déjeuner? Café, café, thé. Oui, c'est pas petit déj, c'est vrai. Café, thé en bas. Moment sympa en bas. Vendredi soir, 20h15, à l'IBG à Genève, concert du groupe Madison. Pour ceux que ça intéresse, je mets ce petit bout d'email au fond, hein, tout à l'heure. Voilà, j'ai fini pour les annonces. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose d'important? Important, c'est notre trésorerie aussi. Ce qu'on met dans la caisse sert aussi à l'œuvre de Dieu. Et oui, Philippe? Alors, c'est important aussi qu'on pense à cette caisse qui se trouve à la sortie. On en a parlé aussi lors de réunions, cette caisse. Philippe?
Juste, je n'ai pas le temps de vous le dire. On a eu des nouvelles de Mélanie. Elle a eu un souci à l'œil, son bon œil. Elle a eu une infection, quelque chose d'assez grave. Ils ont dû la rapatrier sur la capitale deux fois. Ils pensaient la ramener, mais hier, ils ont dit qu'elle resterait là-bas. Ça s'améliore, donc tant mieux, mais continuons à penser à elle. C'était un moment où elle a dû arrêter le travail. Et puis en même temps, elle nous demande aussi de penser carrément à Médère, tout le groupe là-bas et le pays. Le mois d'octobre et novembre, cette période est sujette à tout ce qui se vit dans ces pays-là au niveau des traditions et de leur culture. Donc c'est très mouvementé au niveau spirituel, esprit et ces choses-là. Donc ils sentent aussi des attaques de ce côté-là. Pensons spécialement à eux.
Merci. On pourra mettre quelque chose aussi peut-être sur le site d'un rappel à ce sujet-là. Voilà, je vous invite à vous lever et je vous lirai ces quelques versets pour nous encourager aussi qu'on trouve dans la lettre que Paul envoyait à l'église de Philippe. Ne vous inquiétez de rien. Ça ne veut pas dire n'ayez pas de soucis, hein, mais ne vous inquiétez pas de la solution qui sera donnée. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen.